des visages de l'Algérie, traverser ses couleurs, raconter ses légendes, ses dents, des villes et des histoires. Des villes et des histoires, une émission produite par Malika Lafer, réalisée par Saïd Bouterfa.
Situé à 30 km au nord-est de Borj-Bouarerej, un flanc de montagne, la ville dans le territoire de la petite Kabylie, Zemmoura signifie terre d'olivier. Nichée à flanc de montagne, dans le prolongement de la chaîne des Bibans, exposée en plein sud, Borj-Zemmoura aurait été baptisée par les Turcs lorsqu'ils s'installèrent en 1560. Zemmoura est surnommée la ville de montagne dominante. Elle a connu ces dernières années des transformations urbaines considérables et des avancées socio-économiques multiples qui ont mis à profit le caractère montagneux et forestier de la région. Autrefois fortin avancé de l'Empire ottoman, ce village reste quelque peu mystérieux, s'agissant de la date exacte de sa création. L'on suppose que c'est une cité datant du Xe siècle, construite à flanc de montagne, autour d'une mosquée et d'une fontaine d'eau. Trois quartiers aujourd'hui à Zemmoura, bien entendu, rappellent l'époque musulmane. Trois époques distinctes de l'histoire de cette petite ville pittoresque. La période berbère, il y a ensuite le quartier turc. C'est une sorte de mini-casbah, quadrillée de ruelles étroites, comme celle que l'on retrouve à la Casbah ou à Constantine. Et enfin, le quartier européen, avec quelques immeubles cossus de deux étages. À Zemmoura, l'on retrouve un concentré d'architecture qui rappelle à bien des égards de nombreuses villes d'Algérie. On écoute M. Blounès. Monsieur Bellounas Mohamed, vous êtes professeur d'économie à l'université de Sétif et également natif de la région de, plus précisément à Kolea, qui se trouve à 6 km de Zemmoura. Zemmoura qui est une daïra de Borj-Bouarerej. Alors, si vous deviez nous présenter Zemmoura, Zemmoura qui est aujourd'hui une daïra perchée en haut sur la montagne. On va aussi parler de la montagne et ses bienfaits. Alors, Zemmoura, c'était un centre ouvert qui a connu des apports de beaucoup de civilisations.
Je tiens à préciser que c'est un lieu de passage de plusieurs civilisations, en effet. Turc, le passage des Hammadites, on a vu les réfugiés provenance d'Andalousie aussi, que les Romains également, que sans préciser les dates, Zemmoura, justement, a été ce lieu qui a connu plusieurs passages à la fois, qui a accueilli plusieurs effets civilisationnels à la fois. Zemmoura aussi, ce n'est pas un passage inactif, c'est un lieu d'activité, de dynamisme, puisque depuis fort longtemps, c'est un centre commercial. par l'accueil de métiers tels que la maroquinerie, le tissage, avec la venue des gens d'Andalousie. Que c'est des métiers qui ont été conservés et qui ont fait de Zemmoura, de par sa position au centre d'un réseau de villages qu'il commande administrativement actuellement, et même plus loin, en fait de Zemmoura ce centre commercial structurant qui accueille les produits de ces villages qui représentent le marché, en leur offrant au retour les produits du commerce, les produits des différents métiers. On n'arrête pas de parler du hayek de Zemmoura, par exemple, connu comme le produit par excellence des métiers à tisser, la zarbiya donc de Zemmoura, qui est connue même nationalement par ses qualités typiques. C'est aussi ce lieu ouvert à toute une région qui relève actuellement de la wilaya de Béjaïa. Donc ce n'est pas... Zemmoura n'était pas ce centre qui structurait que les villages qui relèvent actuellement de Bojbouaridige, mais également une partie de tout un réseau de villages qui va jusqu'à Bniwartilène, de la wilaya de Béjaïa.
Moi, en tant que citadine, j'habite dans une grande ville et j'ai une perception, évidemment, de citadine. Elle est perchée à une hauteur incroyable. On bénéficie de l'air pur, de la montagne, de beaux arbres et tout. Mais qu'est-ce qui a fait que les gens sont montés aussi haut?
On ne peut pas expliquer, c'est-à-dire de manière très simpliste, les établissements humains. Je pense que ça s'est fait progressivement au cours des civilisations. Mais je dois préciser quelque chose, c'est que à dos de mulet, la région n'était pas enclavée. C'est une région ouverte. C'est la venue de la route, c'est le réseau moderne qui fait de nouveaux cloisonnements. Aujourd'hui, bien sûr, Zemmoura a là ses routes, ses voies de communication, mais dans le temps, avec les moyens traditionnels de déplacement, de transport, c'est une région ouverte. Il y a autre chose aussi à ajouter, c'est que cette montagne-là, ce lieu que vous dites perché, il faut le prendre dans le sens naturel de la montagne, c'est-à-dire que ce n'est pas un lieu inaccessible ni fragile, comme on a souvent à le montrer. Tout au contraire, il y avait une organisation sociale, il y avait un génie rural, montagnard, qui faisait que cette région-là soit habitable, agréable, qu'elle dispose aussi de ses moyens de subsistance, qu'elle développe même des surplus à échanger avec d'autres régions, et qu'elle communiquait culturellement surtout avec tout un réseau de zaouïa, de lieux, de hauts lieux de culture qui va jusqu'à El Meyen, Bniwartilène et au-delà, Jaffra, etc. Ensemble, ces éléments-là faisaient que ce n'était pas un milieu, un point perché, c'était un milieu vivant.
Justement, ensuite on reviendra à la montagne, puisque je rappelle que vous êtes professeur de l'économie, et c'est l'économie donc spatiale et aussi rurale. Vous allez nous parler de cette montagne, qui est un milieu entier qui a donc ses règles. Zemmoura, pour revenir à la ville, elle a connu, elle, son premier tribunal, et c'est une des plus vieilles villes de l'Est?
Exactement, donc ça remonte à très loin, justement par ces passages et ces civilisations. Et autour de ce centre commercial, on a connu des embryons d'administration qui ont fait qu'il y ait des centres de commandement, des centres de gestion administrative. Donc le fait administratif est très ancien à Zemmoura de par les besoins de ce centre. Ce centre, de par le rayonnement qu'il avait sur toute une région et son caractère stratégique, puisque c'est un point qui relie le versant sud et nord de cette partie des chaînes des Babors, donc de ce massif-là, actuellement Béjaïa à Bojbouaridige et un peu à Sétif aussi, puisque c'est à côté. Donc tout cela a fait que c'est un milieu stratégique, ce qui s'ajoute justement à l'importance de ce centre.
Vous parlez d'artisanat, de raffinement. Vous m'avez dit que les Juifs étaient venus, qui avaient apporté la broderie, c'est-à-dire après la chute de Grenade, ils sont montés à Zemmoura.
Je ne peux pas parler de communauté précise, c'est-à-dire d'époque précise, mais ce qu'on sait, c'est qu'une grande partie des métiers qu'a hérité le centre de Zemmoura a été acquise avec ces échanges civilisationnels. Certains parlent justement de la venue des gens d'Andalousie, qu'on connaît, donc les gens qui ont fui l'Andalousie au moment où tombait Grenade, et qui ont apporté beaucoup de métiers avec eux. Il y aurait peut-être chez les autochtones également, c'est-à-dire les anciens établissements, des métiers qui ont connu leur développement avec ce brassage de civilisation. Je cite les métiers de maroquinerie, Zemmoura est trop connu pour ça, pour ses spécialités, mais aussi le travail de la pierre et bien d'autres métiers.
L'implantation des Zaouias aussi, et puis on dit entre une mosquée, il y a une autre mosquée à Zemmoura. Et est-ce que le soufisme a connu son apogée aussi à Zemmoura, comme on le sait, au XVe siècle, il y a eu comme une forme de renaissance?
Je pense qu'il faut lier le développement du soufisme à Zemmoura par rapport à toute la région qui entoure Zemmoura, à savoir Bni Wertilen, ça va jusqu'à Tefreg, Jaafra, etc. C'est toute une toile et toute une ruée vers le soufisme qui a touché toute la région. Et Zemmoura en faisait partie. Bon, je ne peux pas, en ce qui me concerne, préciser l'échelle, puisqu'il y avait des échelles, c'est-à-dire dans ces réseaux de Zaouia. Bien sûr, il y avait des différentes écoles, différentes confréries, mais il y a aussi des échelles dans cette structure. On le sait, Bni Wertilen, c'était quelque chose de très important, et les recherches continuent là-dessus. Zemmoura également, mais peut-être bien que Zemmoura a plus joué le rôle de relais vers d'autres contrées, vers d'autres lieux, qu'un lieu d'émanation. Là, tout propos réservé, faut chercher et expliquer. C'est pour dire que la position de relais qu'avait Zemmoura a certainement ajouté de l'importance aux confréries, aux établissements religieux, au développement de ces pratiques au niveau du centre de Zemmoura.
Alors, on va parler des spécificités de la wilaya donc borgienne. Elle est la plupart montagneuse. Alors, ce sont des montagnes très peuplées et qui impliquent un mode de vie assez particulier.
Justement, il ne faut pas faire beaucoup de recherches pour découvrir que les montagnes du nord algérien ont été depuis longtemps très peuplées. C'est une spécificité de ces montagnes comparativement à celles de l'Atlas saharien. C'est encore le cas dans le massif occidental des Babors, c'est-à-dire cette partie des montagnes au nord de Borjbarej. Ça a certainement joué dans le sens d'une organisation sociale autour d'unités de base que sont les villages, et ça a fait, par rapport au milieu qu'ils occupaient, que les gens occupaient, des règles, des économies, des pratiques, etc. Là, je dois préciser une chose, c'est que on a souvent tendance à appliquer le modèle citadin aux montagnes, alors que le principe de base de la montagne, de l'économie de montagne, c'est la pluriactivité. C'est-à-dire, on ne voit pas l'économie de ces montagnes que dans l'oliveraie, que dans le figuier, mais bien plus dans l'élevage, dans le blé extra-territoire, extra-montagne, dans les échanges avec l'extérieur, le troc. C'est un système où on tire peu de choses peut-être, mais plusieurs choses à la fois, tout ce qu'offre le milieu comme possibilité. Sur le plan de l'élevage, sur le plan des cultures, sur le plan des activités artisanales. Le tout, ça fait une économie de subsistance qui, à l'époque, à son apogée, pouvait réaliser des surplus qu'on échangeait avec l'extérieur. Et c'est comme ça que ces montagnes-là avaient et tissé des liens avec les hauts plateaux d'abord, puis le sud. Il faut savoir que la société algérienne, le territoire algérien, était plus façonné dans une trajectoire nord-sud.
Monsieur Bellounas, vivre dans ces montagnes, ça impliquait une manière d'échange et de solidarité qu'on ne trouve pas forcément dans les plaines?
Certainement, puisque si on schématise un petit peu, ces sociétés ou micro-sociétés villageoises ne comportaient pas des catégories identiques. Certainement qu'il y avait des gens pauvres, des gens moins pauvres, j'allais dire, et des gens riches. Il y avait des gens qui possédaient assez de lopins de terre, c'est-à-dire sur place, d'autres très peu, et il y en avait même d'autres qui avaient des ressources extérieures. Donc le tout, ça faisait une complémentarité. Il y avait un travail de solidarité et de complémentarité entre ces communautés, ces familles, ces différentes catégories. Il y a par exemple le travail qui se faisait individuellement, il y a des travaux qui se faisaient collectivement moyennant contrepartie, et il y avait aussi le système de la TUISA qui couvrait certains travaux difficiles qui dépassaient l'individu ou qui nécessitaient une communion d'efforts dans l'ensemble. La solidarité était une forme d'adaptation aux difficultés du milieu que je peux qualifier moi-même de rationalité vis-à-vis de ce milieu. On s'adapte à ce milieu en ajoutant à l'effort individuel l'effort collectif via une organisation locale qui est l'Ajma'a qui régit un peu ses relations. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'individu, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à ce niveau-là ou au niveau collectif. Ce sont ces formes d'existence à la fois individuelles dans le cadre de l'Ajma'a, dans le cadre de la TUISA et des formes de différentes solidarités qui faisaient que l'on s'adaptait, je dirais même parfaitement, au milieu montagnard.
Alors, est-ce qu'on peut inclure les biens Arsh ou Hbous dans cette solidarité?
Mais bien sûr, parce que il y a un côté collectif, sociétal, j'allais dire, social, dans ces biens-là, puisque le sens de la propriété dans la montagne diffère fondamentalement de ce qu'on connaît actuellement. Le sens d'abord individuel, ce n'était pas forcément posséder un champ bien défini, on pouvait posséder une plante, un arbre, par exemple. Et il y avait plus de la possession que de la véritable propriété. C'est-à-dire on possédait pour exploiter, pour un usus fructus, mais pas plus. C'est-à-dire, et ça suffisait dans l'esprit des communautés villageoises. Donc, partant de ces significations, bien entendu, ces propriétés collectives étaient comme une assurance, une garantie, de plus, une garantie de solidarité supplémentaire au niveau villageois.
Alors, vous n'êtes pas d'accord quant à la perception que l'on a, une vue exotique, fragile de la montagne?
Pas du tout, pas du tout. Elle est fragile vue du citadin qui ne connaît pas les règles de fonctionnement de la montagne. Certainement, une question est posée, c'est que peut-on reproduire à l'identique les modes de c'est-à-dire de fonctionnement, d'existence de ces montagnes. Ou alors, peut-on interdire l'entrée d'éléments de confort, de modernité, etc. L'histoire de ces villages, alors, c'est-à-dire au sommet de leur développement, au plus haut de leur évolution, c'était qu'ils avaient acquis une certaine cohérence. À l'intérieur de cette cohérence, il y avait division du travail, solidarité, rationalité et adaptation au milieu. On préserve, on exploite le milieu, mais on le préserve, on le respecte. Lorsque vous passez dans les villages, c'est-à-dire du nord de Bojbariz, vous allez par exemple remarquer que les habitations cohabitent avec les plantations et sont installées dans un respect de la nature, des cours d'eau, etc., etc. Donc, c'est les coups donnés à la montagne, cette négligence, j'allais dire, de la montagne, se laisser aller conjuguer à l'attrait de la ville, à l'aspiration à la modernité, ont fait qu'on a perdu un peu de vue l'esprit de montagne, avec tout ce qu'il comporte comme richesse, comme valeur, comme connaissance, comme savoir. Et avec lui, on a perdu un petit peu la conception de ce qu'est la vie dans un village, la vie en montagne. Lorsque je dis on a perdu cet esprit, ça veut dire que on a perdu la cohérence. La cohérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout fonctionne dans un esprit complémentaire. Je vous donne en anecdote comme ça un exemple significatif. Le départ de l'épicier du village, ce n'est pas le départ d'une personne. Parce que l'épicier du village, ça représentait plus qu'un individu. C'est un élément structurant qui fait office de poste, d'agent de communication, de lieu de rencontre, etc. Et à un certain moment, on a fait trop dans l'urbain. Bon, c'est peut-être le cours naturel du développement, mais c'est un fait qu'on a marginalisé un peu la montagne. Actuellement, mon point de vue précis et net, c'est que on fait beaucoup dans une logique de rattrapage. Mais je mesure mes mots, on n'a pas encore fait dans le rééquilibrage. C'est-à-dire que rattrapage ne signifie pas rééquilibrage.
Donc ce qui signifie retard difficilement rattrapable. Mais, vous refutez le péjoratif, le montagnard, alors que le montagnard c'est aussi une culture.
Mais bien sûr, peut-on faire que dans l'urbain? Jusqu'où pousser l'urbanisation, c'est-à-dire ce phénomène. Nous ne sommes pas les seuls, le seul pays à connaître cette évolution. Aujourd'hui, les chiffres nous disent que nous sommes dans une phase de transition démographique, donc peut-être que nous aurons une baisse sur différents plans en termes de demande sociale, logement, etc. Sur un plan d'aménagement, je pense que nous sommes dans un tournant, puisqu'on a fait beaucoup dans la gestion des déficits. Et maintenant, on nous demande, c'est-à-dire la période, le tournant nous demande, cette étape nous demande, nous commande même de chercher dans des choses qualitatives. On peut équiper la montagne avec des éléments de l'urbain. On peut faire la même chose. Nous sommes pratiquement sur différents plans. Autour de 98, en électrification, au gaz naturel, etc., etc. Mais la montagne demande à rétablir une structure productive. Les gens ont l'école. Ils demandent à avoir du travail sur place. Non seulement du travail, c'est-à-dire qui peut préserver ces milieux, mais du travail valorisé. Et là, moi, je pense qu'il faudra faire plus que du rattrapage, il faudra peut-être, et c'est mon point de vue que j'assume, il faudra donner maintenant l'avantage à la montagne.
Zebora était un passage obligé pour les caravanes venant du sud, de Msila, de Boussaada, pour remonter vers la vallée de la Soumam et le port de Béjaïa, d'où, sans doute, le choix des Turcs pour s'y installer et contrôler le trafic commercial. Mais ce ne sont pas les Turcs qui ont urbanisé le village. Les musulmans sont les premiers à y avoir rayonné en y diffusant la culture arabe, construisant la Zawiya del Gulia vers 1350. Celle-ci est bâtie au creux d'une vallée et protégée par les hauts flancs de la montagne où il est ardu d'y pénétrer. Le village d'El Gulia, à l'architecture berbère, construit en pierre, un patrimoine architectural en danger, déserté par ses propriétaires, suite aux événements tragiques qu'a connus l'Algérie, des mesures incitatives ne sont pas suffisantes pour pouvoir le restaurer. Et avec M. Belounès, que nous retrouvons, natif de ce village, nous explique.
Alors, Monsieur Belounès Mohamed, je rappelle que vous êtes professeur donc, d'économie à l'université de Sétif. Vous avez parlé de Zemmoura, mais on va maintenant aller un peu plus loin, c'est-à-dire faire les 6 kilomètres et nous déplacer vers ce village qui est spécifique. C'est un village de Kolea, qui est un village berbère, qui qui serait ancien, parce qu'on dit qu'il aurait été créé au 5e siècle de l'Égypte et au 11e siècle Milady, qu'un homme serait venu donc du Moyen-Orient. Il aurait fait sa retraite spirituelle au bord d'un oued, et ensuite la population est arrivée pour des raisons que l'on ignore. Mais n'empêche que ça a fait un très beau village qui aujourd'hui est en désolation, malgré la mesure incitative que les autorités ont donnée aux gens du village. Elle est très minime par rapport à la restauration de ces petites maisons.
Bon, pour ce qui est de ce village, donc, comme vous l'aviez dit, l'histoire nous raconte que ça relève de plusieurs siècles. Maintenant, c'est vrai que c'est un village qui a connu un petit peu une histoire un peu tourmentée. On raconte que la forêt a couvert ce village à plusieurs reprises pendant les années de famine durant les années 40 qu'a connu l'Algérie, et une seconde fois lorsque ce même village a été décrété zone interdite par donc l'administration coloniale française, bien sûr, de 1959 à 1962. Vous imaginez un petit peu les dégâts qui ont été faits pour la population. Une population qu'on dit qui a atteint les habitants, on les a même sommés de quitter les lieux en l'espace de 24 heures, sans même prendre leurs effets, etc.
Il faut expliquer que c'était De Gaulle qui est arrivé là-bas dans Zamora, et qu'il y avait à Meroche, et que le Zamora et tout appartenait à la Wilaya 3. Donc c'était une zone assez chaude.
Oui, exactement. Donc c'était une zone assez chaude. C'était un maquis un peu spécial pour les Moudjahidines, une zone de repli par excellence et d'organisation. Et ça a fait que l'administration coloniale ne trouvait pas de solution. S'agissant d'une zone où il n'y avait pas de route, inaccessible, sauf par les petits avions jaunes, les fameux petits avions jaunes, donc, ce qui a fait qu'ils ont décrété cette zone-là et beaucoup d'autres villages dans la région comme zone interdite. Et ils ont sommé les habitants de quitter les lieux après avoir commis un massacre de d'une quinzaine de personnes le même jour à Goléamem. Ils ont même empêché les habitants d'enterrer leurs morts. Vous imaginez un petit peu le désarroi de ces populations qui n'ont de moyens que leurs terres, qui n'ont de moyens que leurs habitations, qui allaient errer un petit peu dans les régions voisines et même plus loin, et pour certains habitaient dans les camps de toile pendant 3 ans. S'agissant aussi de populations plus ou moins pauvre, ce n'est pas la grande richesse qui permettait d'aller dans les grandes villes.
On a pu voir un documentaire à l'arrivée de De Gaulle. On a emmené les gens de la population qui étaient complètement démunis, pauvres. On voit ces images qui sont assez frappantes pour accueillir De Gaulle. Et là, De Gaulle, je crois qu'il a compris que l'Algérie ne serait jamais française.
Justement, il faut rappeler que De Gaulle est venu justement à Zamora, qui est donc le QG colonial, où il y avait le quartier général de l'administration coloniale, donc pour superviser toute cette région. Juste après donc son départ, cette zone a été décrétée donc zone interdite. J'ajoute que l'indépendance donc pour les habitants du village avait une double signification. C'était non seulement recouvrir l'indépendance tout court comme tous les Algériens et sur place, mais retrouver son milieu, son village, sa famille, etc. Et fort heureusement, le village est reparti encore de plus belle.
Moi, je voudrais, Monsieur Bellounas, revenir un petit peu sur le village. On dit qu'il aurait été construit sous forme d'étoiles, comme les vieilles villes arabes. C'est des maisons en pierre. Il fallait quand même aller cueillir la pierre et la tailler. Et ce village, en tout cas tout l'aspect extérieur, a résisté. Aujourd'hui, maintenant, il a 9 siècles, 10 siècles.
Oui, vous remarquez au passage dans le village que les habitations utilisaient des matériaux locaux, comme partout où le style berbère régnait. Donc, c'est la tuile locale, c'est la pierre locale, c'est les maçons aussi, ce sont des gens du village. On n'avait pas besoin de toute une communauté de métiers, on avait besoin d'un menuisier, d'un ferronnier, d'une personne ou deux dans chaque métier. Et ces métiers-là existaient et étaient entretenus au sein même du village. Il faut savoir aussi que ces villages-là se construisaient par extension, c'est-à-dire c'est la famille qui s'agrandissait et petit à petit, pour les besoins du nouveau couple, on construisait une chambre, etc. Donc le village paraît actuellement complet, etc. Mais en fait, c'est le système de Hara qui se structurait progressivement. Et si on s'amusait à reconstruire actuellement, donc on ne pouvait pas faire mieux, puisque ça passait de génération en génération. C'est des générations qui construisaient ces maisons-là avec les métiers locaux.
Alors, M. Bellounas, l'aspect extérieur, on a l'impression que tout va bien. Vous êtes président de l'association Asala, c'est pour la préservation du patrimoine. Les gens sont repartis de nouveau aussi à la recherche d'une modernité et aussi pour les événements qui se sont déroulés dans les années 90. Donc, comment sauvegarder ce patrimoine?
Voilà, pour tout vous dire, c'est-à-dire que le village a eu cette chance, entre guillemets, à savoir que durant les années 70-80, un peu marginalisé, donc il a été conservé. Jusqu'ici, les populations, un certain fond de population est resté sur place. Mais comme partout ailleurs, c'est-à-dire cette attractivité de la ville a fait que, et le manque de moyens sur place, et l'aspiration aussi à une meilleure vie, tout ça a fait que les gens quittaient progressivement le village. Donc c'est un exode qui s'est fait progressivement. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui habitent, et cependant, localement, les autorités attachent une importance particulière à ce village de par son originalité, de par le milieu dans lequel il se trouve, et vont jusqu'à penser à l'instituer comme zone d'expansion touristique, qui allie un petit peu les éléments de culture, puisqu'il y a la présence de la Zawiya, les éléments du milieu naturel un peu original, spécifique, etc., les éléments de l'habitat particulier. Sauf que en l'absence d'un plan global, d'une action globale, d'une intervention lourde de la part de l'État, ce sera toujours de petites actions qui risquent même de dénaturer, parce que laisser les choses aux individus, faute de moyens et de capacités, on peut nuire un petit peu aux spécificités, à l'originalité et à l'esprit même de préservation. Ce qui fait que cette association nouvelle que j'ai l'honneur de présider est née un petit peu d'un effort collectif autour de la Zawiya, puisque comme je peux c'est-à-dire le dire dans le cas de Goléa, l'association, l'Ajma'a, la Zawiya, ça fait une même chose. Oui. C'est-à-dire c'est une communauté de gens dynamiques qui essaient de faire quelque chose collectivement, finalement. Et sauf que pour les besoins de revendication, les besoins d'animation, on a été obligé de créer une structure de ce genre, à savoir l'association Asala. Aujourd'hui, on essaie de faire des choses, mais nous heurtons à ce dilemme, à savoir que comment bénéficier d'un projet global et intégré qui, sans prendre le critère population, puisque ce n'est pas ça l'important, nous avons un devoir de préservation et on ne peut jamais reproduire ce village à l'identique, c'est-à-dire avec la vie qu'il animait. Comment, dans ces conditions, peut-on vraiment faire une action qui pourrait remettre ce village sur selle, à savoir comme un lieu visité, comme un lieu préservé, à la fois culturellement, écologiquement, mais aussi économiquement. Les programmes dont a bénéficié le village existent. Les actions, beaucoup d'actions ont été menées. Mais la temporalité de ses actions, le caractère un petit peu isolé de ses actions, fait qu'aujourd'hui se pose une question d'un projet, d'un véritable projet global, à la fois pour le bien du village, mais aussi pour le bien de la wilaya.
Et puis à l'échelle nationale, parfois le patrimoine se détériore par rapport à l'indivision.
Là, vous savez, les problèmes de propriété se posent. Et dans ce cas, une intervention publique est encore plus recommandée. Donc, c'est clair.
Nous sommes allés vers l'autre versant, précisément à Jaafra, à 1200 mètres d'altitude. Une montagne, une diversité de climats méditerranéens, sommets, escarpements, plateaux, font de la montagne de Jaafra une entité exceptionnelle, un paradis pour le tourisme vert, façonné de façon sculpturale par la nature. Les artisans fabriquant et travaillant l'acier, l'huile d'olive, à la manière traditionnelle. Jaafra mérite d'être connue et reconnue. C'est aussi la rencontre des anciens Moudjahidines dans la zone 5 et appartenant à la Wilaya 3. Le monde rural a été et restera le foyer des valeurs et des traditions authentiques. Il a supporté plus que quiconque les pires exactions, les campagnes de destruction et d'humiliation. Il a été la cible visée par la soldatesque et les mercenaires envahisseurs qui ont volé ses terres et pratiqué la politique de la terre brûlée. Les anciens Moudjahidines nous racontent que l'année 1958 a vu aussi l'extension de zones interdites et le renforcement de la ligne Maurice par 20 000 soldats équipés de systèmes de signalisation électrifiés. On écoute M. Houari Salah, M. Hamitou Chahmed et Chellous Lakhdar. Ils nous racontent. Alors on est à Jaafra, c'est une commune et en même temps une daïra qui se trouve donc à 35 km du chef-lieu, une région montagneuse qui se trouve donc à 1200 mètres d'altitude. Nous allons discuter donc avec des moudjahides, il y en a eu beaucoup dans la commune de Jaafra, mais nous avons le plaisir de rencontrer M. Houari Rabah, M. Hamitouch Ahmed et M. Chellous Lakhdar. M. Houari Rabah, merci donc d'avoir répondu à notre invitation. La région ici, la région 5, qui appartenait donc à la Wilaya 3, a connu des batailles. Vous avez été acteur dans ces batailles. Vous pouvez nous raconter quelques-unes.
Je vais vous parler d'une bataille à laquelle j'ai assisté, c'est la bataille de Bourtela. Et celui qui dirigeait les opérations, il s'appelait Moustache Slimane. Il avait avec lui 120 Moudjahid. C'est une bataille qui a duré une journée entière, et un officier supérieur est mort au cours de cette bataille, un colonel. Et nous avons même abattu un avion qui est actuellement visible au niveau du musée. Cette bataille a commencé à 7h du matin et s'est terminée à 10h du soir.
Alors, Monsieur Houari, c'est une région montagneuse, il y a beaucoup de montagnes, donc il y avait des maquis. Comment la France elle a pu opérer? Et aussi, vous m'avez dit hors micro que vous aviez eu un armement, puisqu'il y a eu 19 avions qui ont été abattus ici dans la région.
Il y a 19 avions qui ont été abattus dans la région 5, qui sont encore une fois visibles.
Monsieur Houari, vous étiez jeune, vous ne connaissiez pas ce que c'était que l'armement. Comment vous êtes monté dans les maquis?
Depuis toujours, nous avions des armes et nous pratiquions, disons, l'usage des armes. Et nous avions des armes à la maison, depuis toujours.
Et quels étaient vos autres moyens de survie ?
Vous savez, nous, c'est une région très montagneuse. Même par rapport à nos villages, souvent, c'est des endroits qui sont fortifiés naturellement. Et depuis toujours, nous occupions les points hauts, donc en hauteur. Et nous avions même une histoire même de combat bien avant la période coloniale. Nous avons l'habitude des montagnes et notre population a l'habitude de la vie rude. Et quand la lutte de libération éclaté, ce sont ces villages qui ont fourni le plus gros des troupes.
Combien d'années de maquis ? Une région montagneuse, difficile d'accès. Comment le cheminement de l'armement, comment il arrivait-il ?
Au début, nous avons commencé avec les armes que nous avions à notre niveau, donc les armes de la population. Donc, toutes sortes d'armes, que ce soit des fusils de chasse ou des pistolets, donc on réunissait tout ça. Et un peu plus tard, avec bien sûr les approvisionnements et l'entrée des armes à partir de la Tunisie. Donc ce sont des groupes de notre région qui allaient jusqu'en Tunisie, jusqu'à la frontière, et qui nous ramenaient des armes. Et parmi ceux qui nous ramenaient des armes, il y a encore des moudjahidines qui sont encore vivants, et d'autres qui sont décédés,
Je reviens encore au relief. La France, avec tout son armement, tout son aviation, elle a beaucoup souffert ici dans la région.
C'est sûr que c'était aussi difficile pour la France. Là, pour preuve, les bombes de 500 kilos, 700 kilos sont encore visibles pour témoigner de la rudesse des combats.
Mais 55 à 62. Monsieur Chelouch Lakhdar, un autre compagnon de la route, un militant, un moudjahed, toujours dans la région de Jaafra, Jaafra qui appartenait à la Wilaya 3. Donc, vous avez participé à cette bataille de Boutweb, une grande bataille.
Donc, par rapport à la bataille de Boutweb, donc il faut parler de la première bataille de Boutweb qui a été menée par Bariki. Et trois jours après, il y a eu une deuxième bataille. Donc Bariki a fait la première bataille, il a réussi. Après, nous avons quitté le secteur et nous avons été à Boutweb. Donc après, il nous a rejoint là-bas et il y a eu une autre bataille qui a duré toute la journée. De nombreux moudjahidines sont tombés au champ d'honneur et un grand nombre aussi d'entre eux ont été faits prisonniers. Ça, ça concerne la région de Boutweb.
La bataille a duré combien d'heures ?
Ça a commencé de 6 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et non seulement dans le temps, mais même dans l'espace, parce qu'elle a été jusqu'à Qal'a, donc il est quand même assez loin par rapport au lieu de la bataille. Donc l'armée française est venue d'un peu partout, d'El Maïn, d'El Qal'a, donc ils sont arrivés d'un peu tous les secteurs, même d'Arbou, d'El Kantila. Donc on a été encerclés, bien sûr il y avait l'aviation qui bombardait, et il y a eu énormément de populations civiles qui sont morts lors de cette bataille. C'était au mois de mai 1957.
Lorsque l'armée arrivait à capturer les moudjahidines, ils les emmenaient vers où ?
Ils disaient le Lika.
Donc ils les emmenaient dans les camps. Bon, il y a certains parmi eux qui étaient bien sûr torturés, questionnés. Certains sont morts, certains ont été emmenés, sont retournés dans les camps. Et puis, si on parle de torture, c'est vrai qu'ils étaient torturés très très férocement.
La région de Jaafra, elle était pendant l'époque coloniale, elle était occupée par l'armée ?
Oui, bien sûr, elle était partout, à Oulet Khalifa, Tazal Lamt, Il y avait des postes dans tous les coins. À Tani Tansar, il y en avait à El Mein, à Tassirra, à Iridali. Il y avait des postes avancés partout. Donc dans chaque village, il y avait un poste avancé. Et ce qu'ils faisaient, ils déplaçaient les populations. Que, si on prend l'exemple du village de Jaafra, il a été déplacé dans son intégralité. Et après, ils ont créé ce qu'on a appelé les zones interdites. Et après, ils les ont réunis dans des camps et ils ont bien sûr créé des postes pour surveiller toute la région. Ça, c'était toujours en 1957.
Monsieur Chellouche, de 57 jusqu'à l'indépendance 62 au Maquis, quels ont été les moments les plus durs ?
Sabab de 58.
Alors, les difficultés ont commencé en 1958. C'est avec, bien sûr, le début de l'opération Jumelle. C'était difficile pour tout le monde, aussi bien les populations civiles que pour l'armée. Ils ont carrément tout verrouillé. La population était dans les camps, l'armée de libération nationale était donc isolée. Et même les points d'eau étaient empoisonnés pour éviter que les gens, fassent des réserves d'eau, que les moudjahides fassent des réserves d'eau. Donc c'est vraiment, l'opération Jumelle a été, une période très difficile. Ils rassemblaient les populations pour les mettre dans des camps, et de ce fait, l'armée de libération nationale était isolée.
Combien de temps ça a duré, cette période ?
Oh, vous savez, ça a duré plus de 2 ans. Au début, les huit premiers mois, alors là, c'était vraiment impossible de se déplacer. Et après, bon, au fur et à mesure, ça a été un peu plus assoupli. Donc, de début 58 jusqu'à pratiquement fin 1959. Donc, sans oublier, bien sûr, avec la Lincha, les Maurice. Voilà, donc c'était vraiment une période assez dure. Il y a même des patrouilles qui ont été bloquées entre les lignes de barbelés. Il y a deux moudjahidines de la région qui sont restés près de 18 mois séparés. Donc ils étaient entre les deux lignes. Ils n'ont pu ni avancer ni reculer. Et bien sûr, il y a eu énormément de moudjahidines qui sont morts.
Monsieur Ahmed, nous sommes toujours à Jaafra, et lorsqu'on arrive à Jaafra, il y a cette statue qui représente Amerouche. Amerouche, vous m'avez dit que vous l'avez vue seulement deux ou trois fois. Alors, si aujourd'hui vous pouvez parler de ce stratège, il était politique aussi, il était militaire.
Je vais vous raconter la première fois où il est venu chez nous. La première fois, pour avoir un peu une idée sur Amerouche. Il était avec mon cousin, qui était un officier dans l'armée de libération nationale et qui est tombé au champ d'honneur. Donc il s'était donné rendez-vous pour se retrouver dans le village. Alors là, c'était vers la fin des années 1955. Donc quand Amerouche est venu, j'étais à la mosquée et mon oncle m'avait demandé de surveiller. Donc moi, je connaissais pas Amerouche. Qu'ils sont venus, il était lui avec quelques moudjahides, mais ils étaient en tenue civile. Et ils sont venus directement à la mosquée. Donc ils m'ont trouvé à la mosquée. Alors il s'est adressé à moi, il m'a demandé, est-ce que tu connais Aïssa Boundaoui? Et ce Aïssa Boundaoui, c'était mon oncle. Alors moi, je lui ai dit que je le connaissais pas, parce qu'à l'époque, c'est vrai, on gardait le secret, donc on pouvait pas parler comme ça et dire au premier venu, lui fournir des informations. Et il m'a dit, mais écoute, il était au maquis, il lui a donné des éléments pour que je puisse le reconnaître. Et moi, j'ai répondu, non, je connais pas. Donc je lui ai répondu que je connaissais des Aïssa un tel, mais que je ne connaissais pas de Aïssa Boundaoui. Alors, il semble qu'il y avait une convention entre eux, parce que pendant un moment, il m'a dit, va me chercher à boire. Je lui ai dit, oui, bon, d'accord, je vais y aller. Alors, quand j'ai été chercher de l'eau, c'est Aïssa, bien sûr, qui était à la maison, et donc je lui ai raconté, et il lui a dit, dis-lui de venir. Alors, je lui ai répondu, mais comment, moi, je lui ai dit que je te connaissais pas, maintenant, tu me dis d'aller le chercher. Et il m'a dit, va le chercher et tu verras bien. C'était la première fois que je rencontrais à Meru.
Un politique, un stratège, il était militaire, il a été le chef de la wilaya.
Ah, c'est un génie aussi bien sur le plan politique que militaire. Il avait des stratégies militaires, c'était un homme très doué en matière d'organisation. Et c'est lui qui a pu un peu organiser, tout l'état-major. C'est lui qui a tout réglé au niveau de notre région. Alors, même par rapport à l'information, il était vraiment très bien informé, et il était informé bien avant qu'un événement n'arrive.
D'où lui est venu ce génie, parce qu'il n'a pas fait d'école militaire.
Bah écoutez, ça doit être un don de Dieu. Hein. Vous savez, il y a beaucoup d'officiers qui étaient analphabètes, mais qui sont devenus des stratèges, très très grands stratèges. Pas uniquement à Meloche, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a qui n'ont pas du tout à l'école, mais qui étaient de grands stratèges. On peut citer Sidi Boumerfid, on peut aussi citer Serbibi, qui n'a jamais été à l'école, mais qui avait des stratégies militaires brillantes.
Il était terrible, tout le monde avait peur de lui, c'est vrai ?
Bien sûr, Amirouche a du rehba.
Amirouche ? Ah oui, non, c'est clair. C'est vrai qu'il avait une autorité, c'est vrai qu'il avait une personnalité très très forte. Et même personnellement, il a, disons, ce charisme et cette autorité, vraiment, c'était assez particulier chez lui.
Monsieur Ahmetouche, je disais que lorsqu'on arrive à Jaafra, c'est la statue d'Amirouche. Donc Amirouche appartient aussi à Jaafra. Et vous m'avez dit qu'il n'allait pas partout, mais en tout cas ici dans la région, il est venu au moins 3 fois, même si vous ne l'avez pas vu.
Plusieurs fois les gens.
Quand Amirouche est arrivé, c'était un privilège. On a écrit ces dernières années à propos de Amirouche, de la bleuie, des étudiants. Dernièrement aussi, on a écrit. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce qui a été écrit sur Amirouche et ce que j'ai lu personnellement, et là j'ai assisté à quelques-uns de ces entretiens avec mon enseignant, mon professeur à Belalien, Cheikh Ali Al-Hawari. Alors il leur arrivait de discuter sur la politique. Amirouche n'était pas du tout un tueur d'étudiants. Il aimait les étudiants, il aimait les professeurs, il aimait l'enseignement. Et même il lui arrivait de discuter avec mon professeur des méthodes d'enseignement, enfin de l'avenir de tous ses étudiants, de tous ses élèves. Mais puis, il encourageait l'enseignement.
Mais l'histoire a retenu qu'il y a eu un phénomène de la bleuite, que les services français ont infiltré les maquis et que à Meroche, devant une telle situation, il a dû faire face. Et que, malheureusement, il y a beaucoup d'étudiants qui ont été exécutés par rapport à cette situation. Ça, les gens l'écrivent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
À mon avis, Amirouche n'a jamais tué d'étudiants ni d'intellectuels. C'est pas vrai du tout. D'après, bon, les contacts que j'ai eus avec lui, c'est vraiment un con. Je n'arrive pas à croire à cette. Pour moi, c'est inconcevable. Et jamais il était contre les étudiants. Maintenant, s'il y a eu une ruse ou quelque chose de ce genre, ou alors s'il y a eu une infiltration des services secrets français, il est fort probable qu'il ait pris des mesures pour préserver cette région, pour que la révolution ne vole pas en éclats. Maintenant, s'il a pris quelques mesures, on ne peut pas l'accuser d'être un assassin. Là, c'était un homme qui, au contraire, qui défendait les étudiants, même qu'il en a sauvé pas mal. Je ne crois pas que Amirouche ait fait ce genre de choses.
Vous êtes désolé qu'on ait pu écrire aujourd'hui ça sur lui ?
Écoutez, je vais vous raconter quelque chose concernant Amirouche par rapport à d'autres moudjahides, d'autres wilayas. Moudjahid qui était condamné à mort là-bas. Alors lui, il se déplaçait dans ces autres wilayas. Ils faisaient des enquêtes et après enquête, ils découvraient qu'ils étaient innocents. Donc après, ils les ramenaient ici chez nous. On peut parler de Silhouès, El-Bariki, Salah Nazar, Salah Louris. Donc après avoir fait l'enquête au niveau de ces wilayas, il les a ramenés ici, il a constaté qu'ils étaient innocents, donc ils sont restés ici avec nous. Et ils ont vécu jusqu'au cessez-le-feu. On peut prendre aussi le cas de Cheikh Msaoud qui a été condamné à mort dans la wilaya 1, et il l'a ramené ici après avoir prouvé son innocence, et il a vécu ici parmi nous jusqu'à ce qu'il décède. Non, je vais vous rajouter un autre élément. Pourquoi Amirouche était un problème pour l'armée coloniale? À mon avis, il était très difficile à appréhender, même dans ses déplacements. Et ses déplacements, disons, son mouvement était différent des autres chefs militaires. Donc il lui arrivait de parcourir deux distances en une, et que des fois même deux distances, il les faisait en une seule fois. Il était très très rapide quand il marchait, et il était difficile, disons, de tenir le pas avec lui. Et c'est vraiment impossible de suivre son rythme. Alors j'ai aussi une anecdote d'un ami qui s'appelait Saoud Saïd, qui a cheminé avec Amirouche. Alors ils sont partis d'un point jusqu'à Ouletrolo. Plus de 25 kilomètres en une nuit. Et ça, c'est pour qu'il ne soit pas, disons, appréhendé, pour qu'il efface un peu ses traces. Même il lui arrivait de dire que ce soir je serai à tel endroit, ou Shannon par exemple, mais en réalité il était ailleurs. Donc c'était un génie, un stratège qui respectait ses officiers, qui était un grand organisateur, même par rapport à la nourriture. Il était le dernier parmi ses officiers à manger, et là, quand il trouvait à manger, c'était un homme intègre, honnête, et ce qu'on dit sur lui, je ne peux pas le croire.
أزدك مرات